Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Moi, quand je parle de structuration et de surtout quand on pose des questions sur comment je fais pour structurer, qu'est-ce que je mets comme outil en place, j'aime bien rappeler aussi que les outils que je mets en place, donc ça peut être de mettre en place des plans de 90 jours, donc qui sont un moyen pour mettre en place des projets, pour suivre nos projets, etc., et l'avancée de ce qu'on peut faire, ou que ce soit un dashboard clair où on suit les KPI toutes les semaines, tous les mois, etc. Je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que les outils qu'on met en place, c'est pas fait pour transmettre des informations, mais c'est fait pour comprendre l'entreprise. C'est-à-dire qu'un tableau, par exemple, des KPI, c'est fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe au-delà de juste on met des actions en place. Un plan de 80 jours, c'est fait pour comprendre c'est quoi ce qui se passe en termes de projet dans l'entreprise. Des process, c'est fait pour comprendre comment on fait pour mettre en ligne un article de blog ou faire un podcast. Des choses qui sont plus complexes, etc. Donc, je pense qu'il faut déjà prendre ça en compte. Et c'est aussi ce que j'ai pu faire, c'est mon travail, c'était vraiment de me dire, maintenant, je vais essayer de comprendre ce que Thomas a mis en place. C'est pas toujours très facile, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Pour que quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas l'entreprise et qui ne la connaît pas, surtout, il puisse la comprendre le plus facilement possible avec des process, avec des informations sur les outils qu'on utilise, avec des formations en interne, avec plein... Les outils peuvent être multiples, hein. Vous pouvez faire, si vous êtes dans des vrais locaux, vous pouvez faire un tableau des KPI en réel, si vous avez envie, soyez fou. Mais l'idée aussi, c'est pas de faire un truc qui soit plus complexe que l'entreprise. C'est-à-dire que c'est cool de faire des process et de se casser la tête à faire 10 000 process avec des couleurs différentes, avec des outils différents, avec tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre l'entreprise. Et j'aime bien dire ça, je dis... Un process, c'est fait pour être compris par un enfant de 5 ans. Ouais. Donc, on fait simple. On n'est pas en train de rajouter des trucs de je sais pas qui. Non, on fait simple, en fait. Et c'est aussi pour ça que un wiki interne, c'est souvent quelque chose qui est un peu obscur parce que les gens se disent non mais c'est pas important. Parce qu'en fait, moi je la connais l'entreprise. Je sais, elle est dans ma tête, ça fait je sais pas combien de temps que fois quand tu as lancé le podcast, tu te dis ouais mais ça fait un an que je connais le podcast, je sais comment il fonctionne, je sais comment faire pour faire un épisode de podcast, je sais c'est quoi mes questions que je pose, etc. Mais l'idée c'est vraiment de faire comprendre l'entreprise à son à ses collaborateurs, à ses stagiaires si vous en avez, alternants, etc. Plutôt que de mettre des informations qui vont pas être réellement nécessaires en soi.
Ouais, c'est rendre visible au final les processus qui sont quasi automatiques dans notre tête parce que bah on a l'habitude de faire ce qu'on fait et on comprend et on sait ce qu'on fait.
Ouais.
Mais c'est effectivement rendre ça accessible à d'autres personnes qui vont venir faire partie de l'aventure. Si toutefois notre objectif c'est recruter, mais là c'est un peu ce cheminement dont on parle là, de passer de seul à plusieurs quoi. Et t'as touché un truc là en parlant de la surcomplexification. Une autre des questions que je voulais te poser, et je pense que ça, ça fait partie de la réponse, c'est dans ce cheminement qu'on a eu là pendant ces trois dernières années, de passer de Thomas seul qui fait sa petite tambouille en tant que solopreneur à il y a une boîte, il y a une équipe, il y a des équipes, il y a des processus en place. Tu dirais que c'est quoi les principales erreurs qu'on a faites ensemble ou que j'ai faites moi personnellement ou que tu as faites toi personnellement, mais comme on a vécu ça ensemble.
Je pense qu'on s'est un peu complexifié. Enfin, je pense que on s'est complexifié la tâche et que par moment, tu allais un petit, peut-être un petit peu trop vite sur des choix de recrutement ou même juste des informations qui auraient dû être transmises et qui n'ont pas été. Je pense que c'est un truc où moi j'avais pas assez de clarté aussi sur la vision que t'avais pour le futur. Alors vraiment, s'il y a des gens qui me disent oui, moi ma vision elle est claire, je sais, je veux faire ça, je veux une entreprise avec tel truc, je dis, oui, c'est pas un problème. Mais il y a la vision externe de l'entreprise, donc genre les projets qu'on veut faire, les formations qu'on a envie de développer, les podcasts qu'on a envie où on a envie d'être interviewé, je sais pas, les lieux qu'on a envie d'ouvrir à notre nom. Et puis il y a la vision interne de l'entreprise, c'est-à-dire ok, dans 5 ans j'ai envie de sortir un livre. Mais du coup, ça veut dire qu'il va se passer quoi dans l'entreprise? Ça veut dire que dans 5 ans, peut-être, est-ce que dans 5 ans, ça veut dire que je contacte une maison d'édition et que la maison d'édition me publie? Ou est-ce que ça veut dire bah c'est moi qui ouvre ma propre boîte d'édition et c'est moi qui publie mon livre? Et je pense que c'est peut-être une erreur que t'as faite où du coup, j'avais pas assez de clarté sur comment ça se passe dans le futur du futur. C'est-à-dire, je savais ce qui se passait dans l'année, je savais les projets qui allaient se dérouler et j'arrivais à organiser le planning pour ça, mais j'avais pas assez de clarté aussi sur le très long terme et comment ça allait se passer à l'intérieur. Et ça revient à la phrase que je disais de Régis Ménia qui dit « La boîte, c'est la projection de ce qu'il y a dans la tête du fondateur. » Et moi, j'avais pas encore assez de clarté, en fait, sur qu'est-ce qui se passait dans la tête de Thomas. Parce que je suis pas dans sa tête, encore une fois, je le dirais des milliers et des milliers de fois, je ne suis pas dans la tête de Thomas. Et c'est quelque chose qui me manquait, en tout cas pour moi, pour aussi me projeter sur le long terme, que ce soit sur plein de sujets, quoi.
Ouais, en tout cas dans la surcomplexification et le fait de parfois aller vite, moi ça me parle dans le sens où un des pouvoirs que je m'identifie, quelque chose que je fais très facilement, c'est la vision long terme. Et souvent je le dis, je pense que je peux tracer ce que j'ai envie de faire avec mes projets, avec ma boîte et d'autres potentielles boîtes dans le futur, je peux arriver à dresser ce tableau sur 20, 25, 30 ans. Et c'est vrai que du coup j'ai cette tendance à me dire à essayer d'accélérer vers ça très rapidement. Ce qui a des avantages, c'est que du coup quelque part j'arrive à contracter le temps et à faire des choses assez passer de idée à exécution assez rapidement. Et en même temps, ça a des inconvénients qui sont par exemple la surcomplexification de certains endroits parce que j'ai envie d'être plus loin que la réalité du moment. Qui sont quelque chose que j'ai beaucoup vécu ces 6-9 derniers mois et dont tu as été témoin dans la boîte, qui est le surinvestissement, notamment financier, mais aussi énergétique, où j'essaye de vivre trop tôt dans le futur, quoi.
Ouais.
Et ça, je sais que c'est un de mes pouvoirs, de voir facilement la vision long terme et de chercher à l'incarner vite. Et en même temps, ça a des inconvénients et je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs de structuration qui ont été liées à ça, quoi. Vivre dans le futur, alors que, faut pas oublier que y a des étapes avant d'y aller.
Je peux te poser une question. Je peux.
Ouais, bien sûr.
Parce que c'est un peu mon interview aussi. Je...
Bah quelque part c'est plus une conversation qu'autre chose, donc comme tous les épisodes.
Est-ce que si tu devais, alors je dis pas si tu devais pas très bien avec moi, mais si tu devais peut-être prendre un pas en arrière et si tu te pouvais remonter le temps, est-ce qu'il y a des erreurs que toi t'as faites que tu ne referais plus? Que ce soit dans les 3 ans, mais juste aussi dans le moment un peu charnière que tu as vécu cette année.
Je sais pas si c'est des choses que je referais plus, parce que moi j'ai beaucoup ce truc de me dire ben, tout ce que je fais m'apprend plein de choses. Donc là par exemple, je parlais de surinvestissement, la période, le dernier trimestre de l'année 2022 et tout le premier semestre de l'année 2023, la majorité du temps, on a dépensé plus que ce qu'on a fait rentrer de chiffre d'affaires tous les mois. Et ça, c'est allé avec une stratégie d'investissement sur laquelle j'ai accéléré en fin d'année dernière, qui a eu avantages et inconvénients. Un des avantages, c'est que j'ai énormément appris en tant que gestionnaire de boîte. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans mes outils de pilotage financier. Enfin, voilà, j'ai appris énormément sur cette dimension-là. J'ai appris aussi énormément sur moi parce que mon système nerveux a vrillé complet à partir d'un certain niveau d'investissement. Donc j'ai appris des choses sur moi, le stress. J'ai jamais été une personne stressée, mais j'ai été beaucoup stressé à cette période-là. Donc j'ai découvert des choses sur moi. Donc c'est plein d'avantages. Et je voudrais pas les troquer parce que c'est des compétences hyper importantes pour le futur. Donc je sais pas si je changerai des choses, mais en tout cas, certaines des choses que j'ai compris sur moi et sur ma boîte, il y en a une qui est très intéressante, c'est que comme mon métier... C'est un métier de formation, de transmission et d'accompagnement. Il y a toujours cette part de moi qui a envie de un peu prendre les gens sous mon aile, les aider à s'améliorer, à devenir meilleur. Et ça, c'est génial quand c'est pour les clients. Mais je vois que j'ai un biais sur ça dans comment je recrute. Et que du coup, j'ai un biais à recruter des personnes qui sont plus juniors que ce dont j'ai besoin. Parce que bah, j'ai envie de, tu vois, trouver la perle rare, tu vois. Et ça, je m'en rends compte a posteriori. Ça veut pas dire que je regrette les recrutements que j'ai faits. Je suis ravi des recrutements que j'ai faits. Je suis ravi des êtres humains avec qui je travaille et j'ai travaillé. Mais je prends conscience de ça parce que bah, c'est, et encore une fois, on revient sur ce qu'on disait au début. C'est un biais personnel de l'être humain que je suis qui s'incarne dans les décisions business que je dois prendre. Et c'est là où, du coup, bah, peut-être s'il y avait à refaire avec l'apprentissage que j'ai eu là et si je conserve mon savoir sur moi, peut-être je me dirais qu'est-ce que je peux mettre en place comme outil, comme processus pour m'aider à ne pas tomber dans ce biais-là. Je pense que c'est le truc qui me vient.